Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David. On te retrouve après cette émission comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Guérin, administratrice de l'ADEAR, alors Association Landaise pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural, et Anne Leloup, animatrice. Bonjour toutes les deux, comment allez-vous ?
Super bien.
Merci, bonjour.
Bonjour, bienvenue dans cette émission. On va passer une petite heure ensemble, on va découvrir qui vous êtes, ce que vous faites et quelles sont les valeurs qui sont les vôtres et que vous transmettez. On va d'abord écouter le Flash Info national et international et on se retrouve ensuite pour la toute première partie de cette émission. Allez, c'est parti. Nous voilà de retour avec Nathalie Anne de l'Association Landaise pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural. Alors, la tradition ici, mesdames, c'est on cuisine un petit peu nos invités pour avoir une petite idée de leur trajectoire personnelle qui va nous donner une petite idée de ce qu'ils ont fait dans la vie pour arriver à ce jour, aujourd'hui, à ce micro, pour nous parler du sujet qui les a fait venir. Qui est-ce qui se lance en premier ?
Allez. Moi, j'arrive dans les Landes il y a 43 ans, en provenance de la région Centre. Mmh. Et puis, puis je suis restée. Voilà.
Ça arrive.
Ça arrive. Ouais. Donc moi, j'ai évolué dans le milieu événementiel. Et puis, dans les milieux militants aussi, autour de l'écologie, de diverses associations qui réfléchissent un petit peu et qui analysent un peu le monde qui nous entoure pour comprendre, parce que j'aime bien comprendre. Je suis un peu curieuse, donc voilà. Je me suis un peu penchée dessus avec diverses structures. Et puis, comme j'aime bien manger et que j'aime bien manger des bonnes choses, je me suis rapprochée de l'agriculture paysanne, des agriculteurs qu'il y avait autour de chez moi. Et puis, maintenant, je suis à l'ADEAR et voilà.
Très bien, merci beaucoup.
Alors moi je suis donc Anne, j'ai plongé dans la recherche de ce qu'il y a dans notre assiette m'a toujours passionnée en fait quand j'étais plus jeune. Et au moment où j'ai choisi mon orientation professionnelle, il y a José Bové qui démontait des McDo. Oui. Et c'était juste après la vache folle. Et donc moi ça a fait tilt et je me suis dit je veux travailler pour une bonne alimentation.
Bien sûr.
Donc je me suis dirigée vers des études d'agriculture. Donc ingénieur agricole à Lille. Et ensuite, j'ai commencé à travailler autour des enjeux agricoles sur protéger l'environnement. Donc j'ai travaillé pour des grosses multinationales. J'ai travaillé pour la Lyonnaise des Eaux et ensuite pour Veolia. Sur ces sujets-là de protection d'eau potable. Et au bout d'un moment, ça m'a fatiguée de faire des jolis dossiers sur l'environnement qui finalement ne débouchaient que très peu sur des actions concrètes.
Et oui, un peu de greenwashing peut-être,
un
est-ce qu'on peut
peu,
le dire.
Voilà, on pourrait ouais. un peu dire ça. et du coup, on était quatre à l'époque à avoir un projet d'installation agricole. Et donc on a démissionné tous le même jour pour dire on veut devenir agriculteur. Mmh. Donc on était dans le nord et on arrivait dans le sud-ouest en 2009. Pour s'installer en agriculture paysanne. Mmh. Donc, je fais rapide sur le projet qui a changé, mais au final, je me suis installée avec mon conjoint à l'époque en maraîchage biologique, finalement dans les Landes, pendant une dizaine d'années. Donc j'ai vécu cette installation agricole des non issus du milieu agricole.
De l'intérieur.
De l'intérieur, voilà. Ça c'est une reconversion professionnelle que j'ai vécue. Mmh. Et donc il y a 4 ans, on a arrêté cette activité de maraîchage. Et la question s'est posée de qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et je me suis assez naturellement dirigée vers l'ADEAR, que je connaissais bien. Hein. C'était dans le réseau paysan dont je faisais partie. Mmh. Et donc j'ai trouvé ma place pour accompagner des personnes qui avaient qui décide de faire ce parcours-là que j'avais moi-même vécu.
Et oui, voilà, vous étiez passé par ce processus, donc forcément, vous saviez de quoi vous parlez. Alors, c'est l'occasion de présenter un petit peu cette structure, donc qui a une, comment dire, dimension nationale et puis avec des antennes locales, départementales, si j'ai bien compris, c'est ça. Alors, ça représente combien de structures et combien de gens, tout ça, approximativement, hein, bien sûr.
Alors, en fait, le réseau de la FADEAR et de la Confédération Paysanne, hein, qui sont deux réseaux très, très proches, ça regroupe une bonne cinquantaine de structures. Il y en a quasiment dans tous les départements. Il y a à peu près 250 salariés en tout sur l'ensemble du territoire français, et ça existe depuis 40 ans.
Oui.
Voilà, il y a 40 ans, au départ, la Confédération paysanne a voulu proposer un autre projet agricole que l'agriculture dominante, et donc a mis en place et a proposé ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, qu'on aura l'occasion de décrire un petit peu plus tard. Mais l'idée de toutes les ADR de France, dans les départements, c'est de faire vivre cette agriculture paysanne et de la développer, de renouveler les générations pour avoir des paysans nombreux. Voilà, l'objectif, c'est ça.
Oui, parce qu'on en a besoin, il paraît. Un petit peu.
Mais disons qu'on a toujours besoin de manger.
Et oui, c'est embêtant,
quelle que soit l'époque.
Oui, oui, oui.
Et donc, du coup, il faut s'occuper de pouvoir manger.
Alors, la structure locale, la DR des Landes, se situe où ? Vous-même, d'ailleurs, vous venez d'où, mesdames ?
Moi, je suis à la Luc.
Voilà. Moi, j'habite à Pouillon. Et en fait, l'ADR des Landes n'a pas de locaux.
D'accord.
On est vraiment une petite association avec très peu de moyens.
D'accord.
Et donc, on est en télétravail.
Ah oui, d'accord. Très bien.
Puis on travaille sur tout le département qui est immense. Donc, bureau à un endroit, ce n'est pas forcément le plus pratique.
Ouais.
Donc, c'est nous qui sommes extrêmement mobiles.
Pour mettre une boîte aux lettres. Bon, alors, précision.
On en a une. Hein. Bah, on a une boîte aux lettres
quand même. Non, mais c'est vrai. Voilà, justement, alors, on le dit à chaque fois, toutes les émissions, mais voilà, la spécificité du territoire, hein, landais, est très étalé, peu dense et rural. Hein, voilà, en gros.
Ce qui tombe bien, vu notre activité, quand même.
Voilà, mais c'est vrai que, du coup, la mobilité fait partie aussi des problématiques à prendre en compte, hein, toutes les émissions que je reçois, que ce soit les jeunes, l'emploi, l'énergie et tout. Bon, voilà, c'est quelque chose qui est important.
Mais tout est lié.
Oui, ouais, c'est ça. Alors, donc, c'est quoi votre credo ? Donc, la tâche que vous accomplissez, c'est, on a décrit un petit peu, il y a une partie transmission, une partie formation, on va dire en gros, schématiquement.
Oui, et de l'accompagnement de porteurs de projets ou de paysans qui cherchent à transmettre leur ferme. Il y a aussi de la sensibilisation auprès du grand public sur l'alimentation paysanne. On travaille beaucoup en réseau, donc avec différentes structures. Et on fait aussi des formations pour répondre aux besoins des paysans et paysannes installés ou en voie d'installation, que ce soit sur de l'administratif ou des formations purement techniques. Découvrir des nouvelles cultures, adapter, découvrir son sol, adapter.
Oui, des nouvelles techniques. Voilà. Donc, alors, quelle est votre vision sur l'éducation, la formation mainstream, on va dire, hein, c'est-à-dire ce qu'on enseigne, hein, dans les lycées agricoles, etc. et tout ça. Est-ce que vous, je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais bon, vous êtes là pour dire ce que vous pensez aussi. Voilà, c'est quoi votre vision par rapport à ce qu'on enseigne traditionnellement aux jeunes qui vont devenir agriculteurs ?
Alors, je crois que c'est très variable et ça dépend énormément des formateurs et des professeurs qui sont en place. Mais globalement, il y a un manque de formation sur les aspects agroécologiques, réchauffement climatique et surtout adaptation de l'agriculture aux enjeux actuels.
À l'évolution du climat, à l'évolution
de la société.
Des conditions, des conditions dans lesquelles on est et dans lesquelles on va devoir continuer à produire de l'alimentation.
Je rajouterais peut-être que la vision assez productiviste de l'agriculture nous fait perdre l'autonomie des agriculteurs. Mmh. Et nous, on appuie énormément là-dessus pour que les agriculteurs soient le plus autonomes possible, donc vis-à-vis des banques, des fournisseurs, mmh. et qu'ils puissent prendre en fait leurs décisions eux-mêmes.
Oui, c'est vrai que ça, c'est une partie qu'on va aborder tout à l'heure. On a parlé un peu en antenne de la banque, qui peut faire peur un petit peu, enfin, de l'image qu'on a, nous, quand on n'est pas dans le milieu, quand on entend parler les gens, quand on voit les infos, etc., on peut avoir l'impression qu'il y a une sorte d'hégémonie bancaire sur tout le système et qu'en fait toute la production de ce qu'on mange et ce qu'on boit appartiendrait en fait à des industriels et à des banques qui les représentent. Bon, je sais pas si c'est un peu non sombre ce que je dresse comme tableau, mais qu'est-ce que vous en pensez?
On va essayer de faire en sorte que ça change, ouais. et apporter un peu de convivialité et de mise en réseau dans tout ça.
Bien
c'est
sûr,
ce
ouais.
dont les agriculteurs ont besoin actuellement, mmh. de se mettre en réseau et puis de vivre ensemble, de s'entraider.
Oui, bien sûr.
Oui, puis ce dont les citoyens aussi ont besoin, parce que le choix alimentaire, le choix devient de plus en plus compliqué, à la fois pour des raisons financières et pour des raisons éthiques, en fait. Qu'est-ce qu'on veut manger? Comment, étant donné que l'alimentation, c'est une grande part de notre santé globale,
oui.
en tant qu'individu, comment on fait en sorte d'avoir une alimentation qui corresponde à nos besoins et donc une agriculture qui correspond à nos besoins et qui permet à chacun et à chacune d'avoir une alimentation de qualité qui lui permette de vivre en bonne santé.
Bien sûr. Ah ben c'est le carburant qu'on met dans la chaudière, hein, la nourriture. Hein,
donc, tout à fait.
Si on met un peu un bon carburant, c'est comme la voiture. Hein, si le carburateur est encrassé, c'est parce qu'il y a des cochonneries dans le... Hein, voilà.
Très belle image.
Oui. Bon, c'est pas très poétique. Hein.
Non,
bon, mais... C'est pas grave, on va faire mieux. Allez. On va faire une première pause, écouter un petit peu de musique et on se retrouve ensuite. Et voilà, c'était Haute et Freddy. Alors c'est marrant, c'est pas du tout ancien, c'est très nouveau, c'est une nouveauté, mais en fait c'est tellement entre Cyndi Lauper et Kate Bush, la voix et tout, qu'en fait c'est tout neuf, mais on dirait de l'ancien, hein, voilà, c'est sympa. Alors on va de retour avec Anne et Nathalie. Donc on a prononcé agriculture paysanne, mais qu'est-ce donc est-ce qu'il y aurait une agriculture qui serait pas paysanne? Donc y aurait-il deux mondes qui s'affrontent? Parlez-nous de ça un petit peu.
Qui cohabite, ouais, monsieur.
C'est vrai.
Voilà, qui cohabite. Et nous, on est vraiment axés sur l'agriculture paysanne. Mmh. Et je pense que c'est important, oui, qu'on puisse la définir correctement, parce qu'elle est très, très bien définie. Il y a tout un manuel de l'agriculture paysanne qui a été publié par le réseau FADEARC et Confédération Paysanne. Et donc, elle se définit par la fleur paysanne. Donc, c'est une fleur très colorée qui a 6 pétales, hein, qui est notre logo, hein, de voilà. l'asso. Et ces 6 pétales correspondent en fait aux 6 piliers de l'agriculture paysanne. Le premier, c'est l'autonomie des agriculteurs, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent vraiment prendre les décisions par eux-mêmes. Mmh. Ils décident de leur mode de production, ils décident des cultures qu'ils mettent en place, de l'élevage, des races. Mmh. Mais aussi, ils sont autonomes vis-à-vis, au maximum, des banques, des fournisseurs, pour avoir une certaine indépendance financière et technique. À ce niveau-là. Donc évidemment, pour faire des bons choix en toute autonomie, il faut aussi être formé. Et donc, nous, on va organiser des formations pour être plus autonome sur certains sujets. Donc ça, c'est l'autonomie. Le deuxième pilier, ça va être la transmissibilité. Alors ça, c'est un nom un peu barbare, mais qui se comprend. La ferme doit être en fait transmissible. On ne pense pas uniquement à la carrière du paysan en place, mais aussi à ce qui va se passer par la suite. Une vision plutôt à long terme. Est-ce que cette ferme, elle dégage un revenu? Est-ce qu'elle est vivable? Est-ce que c'est agréable d'y travailler? Est-ce que le paysan peut prendre des vacances? Tout ça, c'est des aspects qu'on va aller étudier sur la transmissibilité. Ensuite, en troisième pilier, on a le développement local territorial. C'est comment le paysan s'intègre dans son territoire. Et pour nous, ça, c'est vraiment hyper important que les paysans ne soient pas isolés. On l'a dit tout à l'heure, on fait beaucoup d'actions pour mettre en relation les paysans entre eux, mais aussi avec les citoyens. C'est vraiment important que les gens se connaissent. Rien que de la vente directe en fait à la ferme.
Voilà, oui.
Clairement, les gens se rencontrent, on discute, et ça permet d'échanger sur les modes de culture. C'est ah ben en ce moment il fait hyper chaud, ça permet d'échanger, de se rendre compte en fait du quotidien des paysans. Donc l'idée c'est vraiment que les paysans soient acteurs sur leur territoire et connaissent leurs voisins. Ensuite, on a une pétale qui est la répartition, qu'on pourrait, c'est un peu barbare de dire ça comme ça, répartition, mais en fait, on pourrait le traduire par le partage. Le partage des moyens de production, donc en premier lieu le foncier. Donc, notre slogan, hein, c'est un peu plutôt plusieurs petites fermes plutôt qu'une grosse pour avoir des paysans nombreux. Donc, on partage le foncier. On partage aussi les aides à l'agriculture, tout ce qui est subvention, tous les moyens de production, évidemment l'eau. Hein, le partage de l'eau pour l'irrigation.
C'est une problématique d'actualité.
Carrément. Et ouais. du coup, voilà, tout ça, c'est des sujets qui permettent en fait, de montrer à quel point... Enfin, voilà, il faut partager nos moyens de production pour être le plus nombreux possible.
Une certaine mutualisation des moyens, y compris, je sais pas moi, des structures ou des engins, etc. Ça fait partie de la philosophie.
Oui, tout à fait. On n'est pas contre l'irrigation en soi, mais il faut qu'elle soit partagée et évidemment que chacun puisse puiser dans les ressources pour subvenir aux besoins, et en particulier lorsque les produits sont destinés à l'alimentation humaine et locale. Voilà.
Bien sûr. Hein.
Pour nous, c'est la priorité. Donc, je reprends ma fleur. Donc, on est parti sur répartition, et ensuite, on a la qualité des produits. La qualité des produits nous permet justement d'avoir des petites fermes à forte valeur ajoutée. Et donc, on va aller regarder si la ferme a une labellisation, une certification. Et l'idée, c'est de faire du mieux. Parce qu'on a perdu d'avance si on fait de la mauvaise qualité en grande quantité.
Ça existe déjà, c'est bon.
Ça existe déjà, on sera en concurrence sur le marché mondial. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse.
Oui, bien sûr, ouais.
Ce qui nous intéresse, c'est de faire de la bonne qualité pour répondre à un vrai besoin et pour bien manger, en lien avec les citoyens.
Oui, et qui aussi n'a pas trop d'impact négatif, en tout cas pas d'impact négatif sur l'environnement. Parce que produire, il y a aussi la façon de produire et les impacts que l'on va avoir sur la capacité de l'environnement à continuer à produire.
Superbe transition sur la sixième pétale.
Quelle équipe hein.
Formidable.
Ouais. La sixième pétale qui est le travail avec la nature, qui est effectivement très lié à la qualité des produits. Et donc ça, c'est, je finis par cette pétale-là, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper important sur les fermes. Donc avec plusieurs voies, la biodiversité. Là, actuellement, on se rend compte que la perte de biodiversité dans nos campagnes, elle est alarmante.
Bien sûr.
Et pourtant, c'est... tellement important pour ne serait-ce que réussir à produire, à continuer à produire. On a besoin des insectes, on a besoin de toutes sortes de d'espèces. Là, on a eu une hécatombe.
Des oiseaux, des petits rongeurs.
Voilà. Ben oui.
On a besoin de tout le monde au niveau de la nature. Et donc, bien sûr, l'adaptation de nos fermes au changement climatique. Là, on travaille énormément dessus en proposant des formations sur ces sujets-là.
Très bien. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est pile poil l'heure de faire la pause. Alors vraiment,
on est trop forte.
Des professionnels. Nickel. Alors on va écouter un petit peu de musique et le flash info local cette fois-ci. On retrouve ensuite nos invités. Donc on retrouve Nathalie et Anne. Donc moi je voulais faire un petit peu le parcours de, parce que c'est votre credo. Hein. Donc voilà, moi j'ai envie de, pour une raison X ou Y. Je pense que le Covid a dû vous amener du monde aussi.
Ben oui.
Ben oui. Hein, ce retour à la terre, on en parlait hors antenne pas mal. Tiens, moi je me dis, tiens, voilà, j'en ai marre de mon boulot à la radio. Je voudrais faire pousser mes légumes et puis devenir agriculteur, etc. Donc c'est quoi les gens qui viennent vous voir et quelle est la trajectoire qu'ils accomplissent en passant par vous?
Alors, c'est vraiment très, très, très variable.
Oui.
On a effectivement beaucoup de personnes de tous les âges qui nous contactent parce que les valeurs qu'on porte leur correspondent bien et qui ont envie de faire un retour à la terre, une reconversion professionnelle ou parfois juste un projet nourricier pour sa propre famille. Des fois, c'est un petit peu flou. Et d'autres personnes où c'est très très construit, ils ont déjà, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire.
Trouver l'endroit où ils vont se poser.
Tout est fixé.
C'est rare. C'est parce que l'accès au foncier reste quelque chose de très compliqué.
Bien sûr.
Donc, ce qui se passe, c'est en général, on passe un petit peu de temps au téléphone avec eux pour voir où est-ce qu'ils en sont. Et la première chose qu'on leur propose, c'est de se rencontrer lors de nos actions collectives. On organise des cafés rencontres, des cafés installations. Ça a lieu à peu près deux fois par mois sur tout le territoire des Landes. Mmh. Donc on a des thèmes très très variables. La semaine prochaine, on va parler de diagnostic agriculture paysanne. Dans 15 jours, ça va être sur les freins à l'installation pour les femmes en agriculture, sur un pressoir collectif aussi sur pour des pommes, mais en fait c'est très, le sujet est un support, souvent c'est sur une ferme qu'on les reçoit, et ça permet à chacun de se rencontrer, parce que quand on est porteur de projet en installation, en agriculture, on a envie de partager son projet, et l'échange est très très riche et permet d'affiner son projet. Et donc de rencontrer des paysans, paysannes, de rencontrer d'autres porteurs de projets, ça permet de se questionner sur ses propres objectifs. Et donc ça, c'est une étape indispensable. Ensuite, il y a des étapes obligatoires. Il y a un guichet unique qu'on appelle le point accueil installation transmission qui est porté par la Chambre d'agriculture dans les Landes. Donc là, c'est un passage un peu obligé pour faire le parcours à l'installation, qui permet d'avoir l'essentiel des infos du parcours. Et ensuite, nous, on va les rediriger sur tout un réseau de structures avec qui on travaille, pour qu'ils puissent se former, pour qu'ils puissent faire des stages sur des fermes.
Vérifier leurs projets.
Tout à fait. Chiffrer leurs projets aussi, on travaille beaucoup là-dessus. Et évidemment, sur un problème qu'on rencontre énormément, c'est trouver du foncier. Voilà. Et cette problématique de trouver du foncier, c'est vraiment un enjeu très important sur le territoire, hein, en particulier dans les Landes. Et pour ça, on travaille avec une autre association qui s'appelle l'ALPAD, et qui a dans ses adhérents énormément aussi de paysans qui veulent transmettre leur ferme. Et ça nous permet de faire des mises en relation entre les porteurs de projets qui cherchent du foncier et ces paysans qui cherchent à transmettre leur ferme.
Donc, on travaille aussi en réseau avec l'association Terre de Liens, puisqu'on a une structure Terre de Liens dans les Landes maintenant, depuis deux ou trois ans, et donc qui permet de faire la veille, d'avoir une veille aussi sur le foncier, et d'accompagner des porteurs de projets qui n'auraient pas la capacité d'acquérir les terres, ou pas l'envie, parce que on peut être paysan et ne pas être possédé sa terre, mais et donc Terre de Liens permet d'aider à acquérir des terres et d'installer des paysans. Il y en a deux maintenant, je crois que c'est la deuxième est finalisée. Il y a deux fermes Terre de Liens pour l'instant dans les Landes, et on espère bien en développer bien davantage. Voilà, parce qu'il va en falloir beaucoup plus pour manger.
Oui, c'est ça.
La terre appartient aux citoyens dans ce cas.
Voilà, c'est ça.
Oui. Bon, après, voilà, la nature en général. Alors, du coup, je me dis des fois, peut-être des agriculteurs, des paysans qui ressentent le poids d'une certaine responsabilité, à partir du moment, dans le sens où ils ont une tâche, entre guillemets, c'est de nourrir les gens, et aussi, en plus, de préserver l'environnement, etc. Ça peut, des fois, être une sorte de charge mentale, rien que d'avoir décidé de démarrer une activité de ce type-là.
Je pense que c'est moins une charge mentale, parce que c'est porter des valeurs, en fait. Et c'est moins une charge mentale que d'avoir à batailler avec les banques, avec les fournisseurs, avec les marchands d'engins, etc. C'est plus facile de vivre avec comme charge le bien-être des gens, le respect de la terre, le respect du bon goût, de la qualité et de... je pense pas que pour moi et pour pas mal de porteurs de projets ou de gens qui sont installés, c'est pas la charge la plus lourde sur leurs épaules, parce que ce sont des valeurs qu'on porte, en fait. le partage, le respect de la terre, le respect de l'humain, le bien vivre. C'est pas dur de porter des valeurs, en fait. C'est pas lourd, au contraire.
C'est un travail militant, quelque part, d'être paysan local.
Alors, cette transmission, là, on parlait là, de la mise en relation. C'est vrai que traditionnellement, on a en tête l'image de la transmission, l'héritage. Hein, le papa qui transmet à son père ou à sa fille, plus souvent le fils, je pense, que la fille. Mais on en parlera. Parce que
oui, ça, c'est bien un des problèmes aussi.
Voilà. Oui. Et donc, du coup, on a. Et du coup, alors, ça, est-ce que c'est en perte de vitesse, ce schéma-là, justement? Et il y a besoin de mettre en relation des gens parce que c'est trop dur. On a parlé un petit peu avant. Des fois, les parents même disent aux enfants « Non, mais fais pas ça, t'es fou, c'est l'enfer. »
Oui, et c'est, à mon sens, c'est l'avenir de l'agriculture d'accueillir des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. Alors, bien sûr, il faut aussi continuer à transmettre des fermes de manière familiale, c'est important également, bien sûr. Mais on en manque, en fait, des jeunes qui veulent reprendre l'affaire familiale.
Oui.
Et on a beaucoup de fermes qui sont quasiment intransmissibles, qui sont grandes, qu'on se pose des questions sur quel devenir sur ces fermes. Et là, en face, on peut avoir des porteurs de projets qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole, qu'il faut effectivement former, mais qui veulent s'installer, et parfois ensemble. L'installation collective sur des grandes fermes à restructurer.
Oui, la mutualisation.
C'est une restructuration, en fait. Parce qu'effectivement, une très grande ferme à transmettre, ça représente, pour l'acquéreur en tout cas, un budget phénoménal. Un endettement
peur,
pour plusieurs vies, en fait.
Quand
il y a 150 hectares, le prix est hallucinant, puisque forcément, il y a du matériel aussi derrière, et qu'à reprendre, il n'y a que des grosses sociétés qui peuvent les racheter, en fait, ces fermes-là. Et donc, du coup, on tombe dans un système industriel total, où c'est l'agro-industrie qui rachète les fermes et qui... passe le cap d'être... Et là, après, c'est un salarié sur une ferme et il gère 150 hectares. Ça n'a aucun sens. Et c'est une agriculture qui, en plus, n'est bien souvent pas dédiée à l'alimentation locale, mais plutôt à de l'alimentation extérieure.
C'est vrai.
Soit des animaux, soit l'exportation.
C'est
un système économique et ça n'est pas un système alimentaire, en fait.
Oui, c'est vrai, oui.
Et c'est revenir à un système alimentaire dans la mesure où, aujourd'hui, on ne produit plus notre alimentation. On ne produit plus la quantité d'aliments nécessaire à notre population.
Oui.
On est totalement dépendant de l'importation. À un moment, on a vu avec le Covid que ça pouvait devenir compliqué, l'importation. C'est peut-être un avertissement pour dire attention, ce système-là ne peut pas perdurer. Et peut-être qu'il faut passer à un système qui soit plus résilient et plus alimentaire, et que localement, il y ait davantage de petites fermes qui sont plus stables, moins compliquées à gérer, qui permettent une implication dans la vie locale réelle. Et évidemment, sur des plus grandes fermes, il y a cette possibilité de s'installer à plusieurs. Et c'est aussi une recherche des gens, parce qu'on est très isolé quand on est paysan. On peut être très isolé quand on est paysan. Et c'est très compliqué, parce qu'au niveau de la vie personnelle, ça, c'est très réducteur.
Oui.
On n'a pas de vacances, on n'a pas de week-end, on n'a pas de congé, on ne dort pas toutes les nuits. Enfin, il y a tout un tas de contraintes selon ce qu'on produit. Bien entendu, mais les nouvelles façons d'avoir envie de s'installer, de porteur, on se retrouve souvent avec des gens qui sont déjà en collectif, qui sont déjà plusieurs et qui ont chacun une particularité. Ça va être un éleveur, un transformeur, un céréalier, et qui vont ensemble reprendre une plus grosse ferme et installer plusieurs ateliers qui vont permettre à chacun d'avoir une activité propre et à tout le monde d'avoir du temps, parce qu'on peut remplacer l'un, remplacer l'autre, permettre à l'un de partir en vacances. S'il y en a un qui est accidenté ou malade, eh bien, il y a les autres qui sont là. Il n'est pas tout seul. S'il y a un problème, on peut en parler. Et c'est des... C'est potentiellement l'agriculture d'avenir, de se regrouper sur des exploitations pour proposer différents ateliers.
D'accord. Bah, ça, c'est un point très intéressant, hein, qu'on ait soulevé. C'est C'est un peu le coworking agricole, hein, c'est-à-dire on vient plus, on mutualise des moyens, hein, forcément,
c'est déjà, ça.
Notamment le foncier.
Le foncier, notamment, le foncier, oui, voilà.
Et
oui.
On recrée l'entraide qu'il y avait avant dans les milieux familiaux, où voilà. Il y avait ça, l'oncle, la tante, les parents, les grands-parents.
Les enfants.
Ça, c'est ce que je dis. Alors, à plein d'émissions, là, on avait Coloc 55 qui fait des colocations, que les gens vivent ensemble, et en fin de compte, la roue a déjà été inventée il y a très longtemps, il paraît. En fait, on revient sur des valeurs, des fonctionnements qui étaient les nôtres avant. Oui. Notre société a évolué, éloigné un peu les gens et les générations. Et là, du coup, on se rend compte, tiens, c'est marrant, mais c'est ce que je disais à mes invités l'autre jour, chasser le naturel et revient au galop. Hein,
oui, parce qu'on se rend compte que de séparer tout, de séparer les gens, de mettre tout le monde dans des petites cases, chacun dans la sienne, ça marche pas, en fait. Donc, c'est juste du bon sens. Revenons au bon sens.
Très bien.
C'est pas très d'actualité, hein. Quand on écoute les infos,
faut pas les écouter.
C'est pas flagrant. C'est pour ça qu'on a enlevé nos casques.
Et oui, oui. Bon, on va faire notre dernière petite pause et puis on retrouve ensuite nos invités pour la dernière partie de cette émission. Et voilà, c'est la dernière partie de cette émission avec Nathalie et Anne de l'ADEAR, Association Landaise pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural. On a pas mal détaillé votre fonctionnement et les valeurs que vous défendez. On va parler un petit peu maintenant agenda. Ça va être l'occasion de voir des choses et puis peut-être aussi de vous rencontrer. Pour les auditeurs et vous entendus, peut-être qu'ils vont venir à votre rencontre.
Mais avec grand plaisir, on les attend nombreuses et nombreux.
De pied ferme.
Bien entendu. Notamment, il y a un très gros rendez-vous. Une fête paysanne qui aura lieu à Tercis-les-Bains le 26 septembre, sur toute la journée, avec un programme très complet. C'est l'ALPAD qui organise cette journée pour fêter les 20 ans de... C'est les 20 ans, hein.
C'est oui, les 20 ans de l'ALPAD.
Les 20 ans de l'ALPAD. Et aussi présenter le collectif que nous avons créé ensemble, et qui s'appelle le TIAP.
Le TIAP.
Comme ici, le TIAP,
quelque chose, le TIAP,
c'est un mot qui parle ici.
Ah, oui,
voilà, mais nous, on a mis deux A parce qu'on est un peu joueuses et joueurs.
Et donc, c'est toutes et tous investis pour une alimentation et une agriculture paysanne.
Voilà, le TIAP.
Voilà. Et ça regroupe, donc on en a déjà parlé, mais il y avait l'ALPAD, l'ADEAR des Landes, il y a le réseau LIMAP 40 qui est le réseau des AMAP, et AMAP est groupement d'achat et épicerie.
Oui, l'AMAP, c'est la continuité logique de ce que, dont on a parlé quand même. Hein, c'est le,
oui, c'est, la,
la fin,
c'est le soutien à l'agriculture paysanne,
ben oui, voilà,
déjà.
C'est ça.
C'est association pour le maintien de l'agriculture paysanne,
c'est
on ne peut pas être plus clair.
Ben oui.
Il y a Terre de Liens. Aussi, dont on a un petit peu parlé, qui est une asso citoyenne qui rachète des terres pour les mettre à disposition de producteurs en agriculture biologique. C'est pour préserver les terres et les garder à l'agriculture et l'agriculture biologique.
Oui,
j'insiste bien sur la préservation à tous les niveaux.
Et
Eco-Action, qui est une coopérative d'entrepreneurs.
Et qui propose en fait un nouveau statut en agriculture, justement particulièrement adapté pour les installations collectives, et qui permet aussi d'imaginer de se tester sur les premières années en installation agricole.
D'accord.
Là, il nous faudrait une émission entière pour détailler ce type d'activité. Il faudra les inviter.
Il faudra
inviter Coaction.
Ben oui, pourquoi pas.
Et Cécile se fera un plaisir de venir expliquer.
Mais pourquoi pas. Ouais, mais avec plaisir. Hein.
C'est passionnant en tout cas. Oui. C'est nos statuts innovants. C'est l'avenir.
Et l'union fait la force, donc on s'est réunis.
Bien sûr.
Voilà, en tout cas, venez le 26 septembre à Tercis. Ce sera l'occasion aussi de faire le baptême du TIAP. Donc, en fin de matinée, il y a une balade paysanne, il y a de la rencontre avec énormément de producteurs et de productrices.
Oui,
locaux,
il y a un marché de producteurs l'après-midi.
Il y a deux repas paysans le midi et le soir. Il y aura des animations, des concerts, ça va être vraiment sympa. Et ensuite, on a d'autres lieux où vous pouvez venir nous rencontrer. Il y a notamment le 29 septembre à Oust-Suzan.
Oui, on sera présent à Oust-Suzan sur la grosse foire de la Saint-Michel, où on sera dans le village. On fait un village associatif où il y a on est 7 ou 8 structures à s'être regroupées. On a un stand assez grand,
une buvette,
dans lequel on aura une buvette.
Évidemment.
Yes. et où on fera déguster des produits locaux de nos producteurs, et où on aura un petit peu de vente aussi pour ceux qui le souhaitent. et diverses structures avec lesquelles on collabore aussi environnementales, et où on parlera un petit peu de ce qui se passe dans notre territoire et de ce qu'on a, ce dont on a envie, et dont on a un peu moins envie peut-être.
Oui.
Après, il y a d'autres rencontres. On organise donc des cafés rencontres, cafés installations qui sont ouverts à toutes et tous, y compris les curieux qui ont juste pas forcément envie de s'installer en agriculture, mais qui ont envie de découvrir un sujet. Par exemple, c'est pourquoi préserver les zones humides sur une ferme, ou rencontrer l'association Pim Pam Pom qui propose de presser les jus de pommes pour des paysans autour et des citoyens. Ensuite, on a...
On va organiser des ciné-débats aussi.
Ciné-débats, il y en a justement un, les 3 et 4 décembre, pour la projection du film Gabin.
Elle sera plus en avant-première, je crois.
Ce sera la semaine de la sortie, mais ce sera en présence du réalisateur.
D'accord.
À Mont-de-Marsan et à Ayres-sur-Adour, avec un petit débat et une rencontre avec des éleveurs juste après la projection. Et ensuite, moi, on vous engage à aller voir notre site internet, agriculturepaysanne.org, sur le site de la page Land, où on a toutes nos infos. On a des journées techniques sur planter des agrumes ou planter des oliviers dans les Landes, comment faire, ou tout simplement faire avancer son projet et réfléchir au statut juridique, à chiffrer son projet. C'est des choses sur lesquelles on peut travailler plus spécifiquement.
Tout à fait. Et on invite les mangeurs, donc les citoyens et citoyennes, à rechercher autour de chez eux les producteurs ou les productrices qui pourraient leur fournir une alimentation, et à nous rejoindre. On est toujours preneurs de bras et de bonnes idées.
Bien sûr.
On travaille avec beaucoup de structures. On n'a pas parlé du collectif de la sécurité sociale de l'alimentation, mais on reviendra. Mais vous en avez peut-être parlé dans une autre émission.
On en a déjà parlé, oui. Voilà. C'est toujours un sujet intéressant.
Ce qui est quand même une...
Alors c'était intéressant, puis là, toutes ces rencontres, c'est ce que vous disiez, chercher les producteurs, c'est pour mettre un petit peu dans l'oreille des auditeurs qu'on va peut-être passer de la simple position de consommateur un consommateur, je déteste ça, c'est des slogans tout faits.
On est dans le greenwashing encore.
Non, mais c'est vrai que ça va être plus un partenariat, limite avec l'agriculteur, que le juste consommateur-vendeur.
C'est ça, c'est-à-dire que le rapport n'est pas le même. D'abord, c'est un rapport humain, on n'est pas en train de remplir un caddie tout seul dans son coin.
C'est des gens.
Et puis, on se dit aussi que, quelle que soit la somme qu'on investit dans notre alimentation, quand on la va chez le producteur, c'est lui qui empoche l'argent que vous donnez. C'est pas des actionnaires à l'autre bout du monde. Je pouvais pas ne pas le faire, en fait. Les gens qui me connaissent n'auraient pas compris.
Non, mais c'est normal. Ça fait partie du sujet.
C'est le jeu aussi. Ouais.
Mais merci beaucoup tous les deux d'être venus, d'avoir transmis votre passion et nous faire entrevoir aussi notre manière de faire les choses, de consommer d'avoir toujours des bonnes choses à manger qui sont même meilleures pour notre santé en plus. Donc et sans effectivement engraisser des actionnaires qui, eux, ils sont
Créons un cercle vertueux de plus en plus grand, une belle spirale vers le mieux. Voilà, soyons optimistes, essayons.
Très bien, mais merci beaucoup.
Merci pour votre accueil.
Bon retour à Dichat.